DW. Économie et développement.
Le sucre. Cet ingrédient essentiel du quotidien devenu un luxe pour de nombreux ménages centrafricains. Depuis l'arrêt des activités de la SUCAF, la sucrerie centrafricaine, le pays ne produit plus un seul gramme de sucre. Toute la consommation repose désormais sur des importations, faisant grimper les prix et alourdissant le déficit commercial. Alors que les rayons se vident et que les frustrations montent, le gouvernement mise sur un partenariat public-privé pour relancer la production locale. Et puis, suite de notre série sur les start-up, lauréate de l'Orange Summer Challenge à Casablanca. Cap sur la Tunisie pour découvrir MEPS, Methane Energy Production Solutions. Sa mission, transformer les biodéchets en énergie propre grâce à une technologie intelligente et accessible pour contribuer à la souveraineté énergétique du continent. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En Tunisie, le gaz naturel occupe une place prépondérante dans la consommation énergétique, représentant à lui seul 48% de la demande totale en 2022 devant les produits pétroliers. Le paysage électrique national reste largement dominé par les centrales thermiques alimentées au gaz. Dans ce contexte marqué par une demande énergétique en constante progression et un recul notable de la production locale, la dépendance du pays vis-à-vis des importations s'est considérablement accrue, passant de 5% de la consommation en 2010 à plus de 50% en 2024. C'est dans cette dynamique que la start-up Methane Energy Production Solutions, MEPS en abrégé, entend apporter une réponse innovante et durable en misant sur une ressource locale souvent négligée, les biodéchets. Avec plus de 3 millions de tonnes de biodéchets produits chaque année, la Tunisie a un gisement d'or vert à portée de main. Et la solution de MEPS repose sur des biodigesteurs intelligents, mobiles et connectés. Une technologie portée par une jeune, Houloud Ayachi, qui rend le biogaz accessible, même aux petits exploitants agricoles.
Notre solution repose sur des biodigesteurs mobiles et connectés, mais grâce à la connectivité et à l'intégration de l'IA, nous optimisons et suivons en temps réel la production d'énergie et l'efficacité du processus de traitement. Donc pour le moment, nous nous concentrons sur les besoins directs de nos communautés et notre objectif est de rendre le biogaz accessible à tous, pas seulement aux grandes industries. Non seulement il obtient une source de gaz renouvelable, mais il bénéficie aussi d'un fertilisant naturel plus efficace que les engrais chimiques, lui permettant d'améliorer les rendements de son exploitation agricole. Nous comptons aussi collaborer prochainement avec les collectivités et les industries agroalimentaires pour déployer le biogaz à grande échelle, parce que le potentiel est immense. Les industries agroalimentaires et les collectivités génèrent des milliers de tonnes de biodéchets chaque jour, qui pourraient être transformés en énergie plutôt que d'être jetés.
Issu d'une famille d'agriculteurs et d'éleveurs, Houloud Ayachi a été directement confronté aux effets de la crise économique qui fragilise le secteur rural en Tunisie. Elle prend conscience de l'urgence d'une solution durable et met alors en place ce projet grâce auquel un agriculteur peut désormais produire sa propre énergie et obtenir un fertilisant naturel. Son ambition, couvrir jusqu'à 10% des besoins nationaux en gaz naturel d'ici 2030, tout en créant des milliers d'emplois verts. Pour atteindre cet objectif, Houloud Ayachi compte aussi sur des appuis financiers et des partenariats.
Nous avons essayé d'aligner la solution avec les besoins de nos communautés. Donc, nos installations décentralisées permettent aux utilisateurs, même dans des zones reculées, de devenir autonomes énergétiquement. Et pour accélérer notre déploiement, plusieurs financements peuvent jouer un rôle clé, comme d'abord les fonds internationaux comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, aussi les organismes qui soutiennent les projets d'énergie renouvelable et d'économie circulaire. Ce sont des secteurs dans lesquels nous nous inscrivons parfaitement. Nous pouvons également bénéficier de mécanismes de financement déjà attribués aux solutions de transition énergétique et aux innovations technologiques. Ensuite, on a les fonds climate, comme le Green Climate Fund ou le Fonds pour l'environnement mondial. Des programmes comme Orange Social Venture Prize Africa and Middle East offrent un soutien significatif aux startups innovantes dans l'énergie et dans le développement durable.
Kolutayachi, votre solution répond à un besoin crucial en Tunisie. Mais au regard des défis communs à de nombreux pays du continent en matière d'énergie et de gestion des déchets, pensez-vous à une expansion de votre projet à l'échelle africaine?
Bien sûr, nous comptons exporter notre solution vers d'autres pays africains. C'est une ambition de moyen et long terme pour nous, avec de nombreuses régions qui n'ont même pas accès à des ressources d'énergie fiables et où les communautés restent souvent dépendantes de combustibles fossiles coûteux et polluants. Mais surtout, ces régions ont un potentiel immense en termes de ressources naturelles et agricoles. Et c'est là que notre solution peut véritablement transformer les choses.
Produire de l'énergie à partir des biodéchets, l'idée n'est pas nouvelle. Mais entre les mains de Houloud Ayachi, elle prend des allures de révolution. Révolution écologique d'abord, mais aussi sociale et économique. Avec son biodigesteur mobile et intelligent, la jeune Tunisienne et sa start-up ambitionnent de repenser la gestion des déchets organiques en ciblant aussi bien les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de l'agro-industrie que les usages domestiques. En Tunisie, et bien au-delà.
DW.
Le sucre, produit de première nécessité, se fait de plus en plus rare sur les marchés centrafricains. Cette situation découle de l'arrêt des activités de la sucrerie centrafricaine SUCAF, filiale du groupe Castel, qui a cessé d'opérer dans le pays. Désormais, toute la consommation nationale repose sur des importations, pesant lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages et creusant le déficit de la balance commerciale. Face à cette crise, le gouvernement redouble d'efforts pour relancer la production locale à travers un partenariat public-privé. Jean-Fernand Quénan nous amène au cœur de cette problématique à travers ce reportage.
Il est 10 heures au marché central de Bangui. Devant son étal d'articles divers, Angèle fait face à une demande qu'elle peine à satisfaire.
Le paquet de sucre, nous n'en avons plus, ni même de sachets d'un kilo. Les clients en demandent, mais nous ne savons que leur répondre. C'est notre plus grande difficulté. Nous vendons du sucre en poudre, réparti en petits sachets à 250 francs. Certains achètent, mais d'autres trouvent que la quantité est insuffisante et que les prix grimpent sans cesse. Avec l'importation, le coût est élevé, et si nous augmentons la quantité, nous ne faisons plus de bénéfices. Alors nous devons négocier et expliquer aux clients que nous ne produisons plus de sucre localement.
Pour remédier à cette situation, le gouvernement a misé sur l'objectif de combler le vide laissé par la SUCAF et de relancer la production sucrière nationale. C'est dans cette optique qu'a été créée la Société africaine de transformation agricole SATA, chargée de relever ce défi. Sorongope Ngarsoul, son représentant, se veut optimiste.
Depuis près d'un an, nous avons mis en culture à peu près 700 hectares, ce qui est déjà un record par rapport à ce que nos prédécesseurs ont fait. Nous avons mis en culture 219 hectares de canne à sucre que nous sommes sur le point de récolter, de transformer selon le processus dédié, le broyage, l'épuration et l'évaporation. Ce sont les trois principales phases de traitement du sucre. Et de toute évidence, si prête à Dieu, je pense que d'ici avril, nous allons sortir le premier sucre SATA made in RCA. Notre production en prévision est de 9000 tonnes, sachant que la demande nationale est de l'ordre de 60 000 tonnes pour la RCA sur une année.
Entre la période de production avec la SUCAF et celle de nos productions actuelles, la balance commerciale du pays a fortement basculé dans le rouge. Le gouvernement mise donc sur la montée en puissance de SATA pour réduire le recours aux importations et améliorer les recettes fiscales. C'est ce qu'estime Thierry Patrick Akolosa, ministre du Commerce.
Ces autorisations que nous donnons pour permettre d'importer du sucre, nous le faisons parce que le marché est vide. Mais lorsque SATA va commencer à faire une grande production, nous allons réduire l'importation pour permettre à ce que les produits qui sont transformés sur place soit mis sur le marché et permettre aussi à l'entreprise de prospérer. Le gouvernement doit travailler pour que d'autres sociétés puissent s'installer.
Même en temps normal, la production locale ne suffisait pas à satisfaire la demande nationale, obligeant le pays à importer près de 20% de sa consommation, notamment du Brésil. Aujourd'hui, face à la flambée des prix, certains acteurs économiques appellent à des décisions plus justes et équilibrées pour atténuer l'impact sur les consommateurs. Augustin Agou, opérateur économique, alerte sur la nécessité d'un choix stratégique.
Vu que le problème des recettes fiscales douanières, nous sommes totalement conscients de cette situation. Mais la réalité nous rattrape. Les Centrafricains se plaignent des flambées des prix, des produits de première nécessité sur le marché. Autant mieux perdre quelques dizaines de millions et soulager la population qui est de continuer à persister, à persévérer dans le mauvais chemin qui pose problème à la population.
Mais au-delà de la question des importations et de la production locale, certains experts pointent du doigt des pratiques de concurrence déloyale ayant précipité la chute de la SUCAF. L'économiste Guy-Simplice Kodégué explique les enjeux de cette guerre commerciale.
L'idée de départ était que la SUCAF réponde à des besoins de la population. Et la différence était à importer. Et descendu gap d'importation qui était tout à fait normal pour satisfaire à ces besoins-là. Donc il y a eu à un moment donné des mesures d'ordre fiscal qui étaient prises au niveau étatique sur le plan réglementaire. Mais ces mesures ont été détournées, et donc à tour de bras, des particuliers, des entreprises et même des gens qui ne sont pas du tout du pays ont importé à grande échelle, dépassant même le gap qui était retenu réglementairement de 20% pour pouvoir couvrir la consommation locale. Du coup, la SUCAF n'était plus en capacité de pouvoir faire face à ces charges. Parce que l'idée, c'était d'aller de s'imposer sur le marché au-delà de la République centrafricaine.
En attendant une véritable reprise de la production locale, la demande en sucre ne faiblit pas et les spéculations sur les prix vont bon train, profitant aux importateurs et aux commerçants du secteur. Jean-Fernand Kouina, Abangui pour la Deutsche Welle.
Jean-Fernand Kouina et son sujet sur la production du sucre en RCA qui viennent mettre un terme à ce numéro d'économie et développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le podcast est disponible sur notre site www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine pour le même magazine, mais avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.